Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nine Nartry. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Paru en 1776, Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations est le grand traité de philosophie économique de Adam Smith. Ce premier volume réunit les livres 1 et 2, consacrés aux mécanismes de la production, de la valeur, des prix, des salaires, des profits, de la rente et du capital. Smith ne propose pas un manuel de gestion ni une défense simpliste du commerce libre. Il cherche à expliquer comment une société accroît durablement son revenu collectif, en observant la coopération entre travailleurs, propriétaires fonciers, marchands et institutions publiques. Son point de départ est concret, la spécialisation des tâches permet une hausse considérable de la production. Son analyse devient ensuite plus ambitieuse, car elle relie les échanges, la monnaie, la distribution des revenus et la formation du capital. Texte fondateur de l'économie politique classique, cet ouvrage conserve un intérêt majeur pour comprendre les catégories qui structurent encore le débat économique, tout en exigeant une lecture attentive de son contexte historique et de ses limites. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la division du travail comme origine concrète des gains de productivité, le livre 1 ouvre sur la division du travail, mécanisme central par lequel Smith explique la croissance de la richesse, lorsque la fabrication est répartie entre des personnes spécialisées. Chacune devient plus habile dans une opération limitée, perd moins de temps en passant entre des tâches différentes et favorise le développement de procédés ou de machines adaptées. Le résultat ne relève donc pas seulement de efforts individuels, il provient de l'organisation sociale de la production. Smith insiste sur le fait que cette spécialisation dépend de l'étendue du marché. Un marché plus large permet de vendre davantage, justifie une répartition plus fine des fonctions et rend rentable une production plus spécialisée. Cette relation établit un cercle cumulatif entre échange, productivité et expansion économique. Toutefois, le raisonnement ne célèbre pas sans réserve la fragmentation des tâches. Smith remarque que des opérations répétitives peuvent appauvrir les facultés intellectuelles des travailleurs. Il attribue ainsi à la puissance publique une responsabilité éducative. Cette réserve est essentielle, la recherche de efficacité productive doit être accompagnée par des institutions capables de préserver les capacités civiques et humaines des individus. Deuxièmement, échange, valeur et prix naturel dans une économie de marché, Smith fait de la propension à échanger un principe d'organisation économique. Les individus ne produisent pas uniquement pour leur usage immédiat, ils obtiennent une partie de ce dont ils ont besoin en offrant aux autres le produit de leur activité. Cette interdépendance donne une fonction décisive au prix. Le livre 1 distingue le prix de marché, observé dans les transactions, et le prix naturel, qui correspond aux rémunérations ordinaires du travail, du capital et de la terre nécessaires pour amener durablement un bien sur le marché. Quand offre et demande ne coïncident pas, le prix de marché peut se situer au-dessus ou au-dessous de ce niveau. La concurrence tend néanmoins à attirer ou éloigner producteurs et capitaux, ce qui exerce une force de rappel vers le prix naturel. Cette analyse ne suppose pas que les prix soient toujours justes ni stables. Elle décrit un mécanisme de coordination décentralisée sensible aux pénuries, aux privilèges et aux obstacles institutionnels. Smith aborde aussi la valeur en distinguant valeur en usage et valeur en échange. Son examen du travail comme mesure de valeur éclaire une économie antérieure aux théories modernes de la valeur, mais pose les bases d'une réflexion systématique sur la formation des prix et la distribution des revenus. Troisièmement, salaire, profit et rente, la richesse est aussi une question de répartition. La richesse nationale ne se réduit pas au volume des marchandises produites. Smith examine aussi comment le revenu issu de la production se répartit entre salariés, détenteurs de capital et propriétaires fonciers. Le salaire rémunère le travail et doit, au minimum, permettre la subsistance et la reproduction de la population laborieuse. Son niveau dépend de la demande de travail, elle-même liée au rythme de accumulation du capital. Le profit constitue la rémunération de celui qui avance les fonds, organise une activité et supporte les risques liés à l'emploi du capital. La rente correspond aux revenus tirés de la propriété de la terre et dépend notamment de la fertilité des sols, de la localisation et de la demande pour les produits agricoles. Ces catégories permettent à Smith de montrer que les intérêts sociaux ne coïncident pas automatiquement. Les employeurs disposent souvent de davantage de moyens pour négocier que les travailleurs, tandis que certains groupes économiques peuvent rechercher des protections contraires à l'intérêt général. Cette attention au rapport de pouvoir nuance fortement une lecture qui réduirait Smith à une simple apologie des intérêts privés. Son analyse vise plutôt à identifier les conditions institutionnelles dans lesquelles la concurrence peut limiter les privilèges et soutenir une prospérité plus largement partagée. Quatrièmement, capital fixe et capital circulant au service de la production future, le livre 2 déplace l'analyse de la production vers celle du capital. Pour Smith, une société ne progresse durablement que si une part de son revenu est épargnée, puis employés de manière à mettre du travail en activité. Le capital fixe comprend notamment les machines, bâtiments productifs et améliorations durables qui apportent un revenu sans changer continuellement de propriétaire. Le capital circulant comprend les fonds, matières et marchandises qui doivent être vendus ou remplacés pour poursuivre le cycle de production. Cette distinction montre que accumulation ne signifie pas simplement conservation de monnaie. La monnaie facilite les échanges, mais elle ne produit pas directement les biens nécessaires à la vie collective. Ce qui compte est son orientation vers des activités productives, capables de renouveler les ressources avancées et de soutenir emploi. Smith classe les emplois du capital selon leur contribution au produit annuel, en accordant une place importante à l'agriculture, aux manufactures et au commerce intérieur. Son vocabulaire sur le travail productif reflète les conditions matérielles de son époque et sous-estime la valeur économique de nombreux services. Malgré cette limite, son idée fondamentale demeure la croissance dépend de la capacité à transformer une partie du revenu présent en moyens de production futurs. En dernier lieu, monnaie, épargne et circulation du revenu dans le développement national, Smith présente la monnaie comme un instrument de circulation et non comme la richesse elle-même. Elle évite les difficultés du troc en fournissant un moyen commun de paiement, mais elle demeure comparable à une roue utile au mouvement des biens, sans se confondre avec les biens transportés. Cette image conduit à une critique des politiques qui assimilent abondance monétaire et prospérité réelle. La richesse dépend plutôt du produit annuel du travail et de la manière dont le capital soutient ce travail. Dans le livre 2, épargne et dépenses reçoivent donc une portée macroéconomique avant la lettre. Une dépense orientée vers le luxe peut satisfaire des besoins immédiats, tandis qu'une épargne investie finance salaires, stocks, outils et production ultérieure. Smith ne formule pas une condamnation morale universelle de toute consommation. Il cherche à établir la différence entre un revenu consommé et un fonds converti en capital. Il examine également le crédit et les banques, dont les billets peuvent réduire la quantité de métal nécessaire aux transactions. Cependant, une expansion imprudente du crédit peut fragiliser la circulation. Le propos associe ainsi confiance financière, discipline des avances productives et croissance de long terme, sans réduire l'économie à la seule sphère financière. En conclusion, les livres 1 et 2 de Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations conviennent aux étudiants en économie, histoire, sciences politiques et philosophie, mais aussi aux lecteurs qui souhaitent revenir aux origines des notions de productivité, concurrence, capital et revenu national. La lecture demande de la patience, le vocabulaire, les exemples commerciaux et les débats monétaires appartiennent au XVIIIe siècle. En contrepartie, elle offre un bénéfice intellectuel rare, voir les catégories économiques se construire à partir de problèmes concrets, tels que la coordination du travail, la formation des prix et emploi de épargne. Le lecteur y gagne aussi une vision plus nuancée de Smith. Le texte valorise les effets de la concurrence et de la spécialisation. Mais il signale les dangers des monopoles, les asymétries entre employeurs et salariés, ainsi que les effets humains de la répétition industrielle. Par rapport aux manuels contemporains, souvent plus formalisés et sectorisés, cet ouvrage se distingue par son ampleur production, institution. Comportements sociaux et circulation monétaire appartiennent à une même enquête. Par rapport aux essais idéologiques sur le marché, il se distingue par une démarche analytique, attentive aux mécanismes et aux conflits d'intérêts. Ce volume est donc moins une recette pour gouverner une économie moderne qu'une source indispensable pour examiner les présupposés, les forces et les limites de la pensée économique classique. Si vous souhaitez soutenir Adam Smith, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.